Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquencier vous fait revivre tout l'été, planète en fait. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
Saint-Pierre-des-Nids avec Planète en Fête permet bien sûr de découvrir tout ce qui tourne autour des bonnes pratiques en matière agricole et de production et de comportement également de consommateurs. Mais il est vrai que si on s'intéresse assez facilement à tout ce qui est proche, si on trouve à peu près normal de produire propre, de se préoccuper de la biodiversité, tout ça autour de nous, il est aussi important d'avoir en tête que nous ne sommes pas tout seuls sur cette planète, que Saint-Pierre-des-Nids, la Mayenne ou notre Sarthe à nous, ce n'est qu'un tout petit point sur cette planète, et qu'ailleurs il y a des enjeux importants et que sur ces enjeux nous sommes concernés. Nous sommes concernés de façon tout à fait directe, par exemple, tout simplement parce que nous sommes des consommateurs. Et puis, il y a des évolutions sur lesquelles on peut essayer de jouer dans le cadre de relations sociales qui devraient être meilleures aussi ailleurs. Avec nous sur ce plateau qui va donc consacré à une vision d'enjeux un peu plus internationaux, Sonia Fraquet, qui est présidente fondatrice de Peuple des Forêts Primaires, est présente ici donc dans un stand à Saint-Pierre-des-Nids, et Jean Poitevin, qui est président de Guy Poitevin Anne Mayenne. On parlera de Anne Mayenne, Anne Mayenne, c'est plutôt ça le terme qui revient de façon générale. Très bien. Et on va essayer de comprendre un peu le sens finalement d'une participation à une manifestation comme celle-ci. Sonia Fraquet, vous venez du Finistère, hein, donc c'est quand même pas la porte à côté.
Finistère Sud, oui.
Voilà. Qu'est-ce qui explique votre présence dans une manifestation comme celle-ci ?
Eh bien, c'est le moyen de faire entendre la voix des peuples autochtones des grandes forêts de la planète, qu'elles soient tropicales, tempérées ou boréales, qui crient au secours parce qu'on leur détruit leur maison et leur lieu leur source de vie. Donc, notre premier but, c'est essayer de faire reconnaître leurs droits qui ne sont pas authentifiés par des papiers avec des sceaux. Et surtout, les gouvernements qui profitent de la vente de ces forêts, eh bien, les traitent comme des macaques, comme disent les penans au Sarawak, c'est-à-dire comme des singes qu'on peut éliminer, qu'on peut parquer dans des baraques. Actuellement, au Sarawak, les palmiers à huile touchent les baraques. Les chasseurs-cueilleurs ne peuvent même plus cultiver une plante pour la nourrir.
Donc,
la famine,
victime de
la déforestation pour du bois. Alors, sans compter qu'ils sont matraqués, en Amazonie, on a connu un Indien de Colombie amazonienne qui voulait tuer tous les Blancs parce que tous les membres de sa famille étaient tués. On tue sous les arbres de la forêt amazonienne, autant les Indiens que les paysans sans terre qui réclament l'application de la réforme agraire. Et ça continue avec les gouvernements actuels, les gouvernements qui se succèdent.
Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Sonia Fraquet. J'aimerais que Jean Poitevin m'explique à quel aspect, disons, de relations sociales ailleurs dans le monde il s'intéresse.
Oui, alors disons que l'association, pourquoi notre présence ici aujourd'hui au stand. Bon, moi j'ai beaucoup navigué aussi dans tous ces réseaux qu'on le retrouve ici aujourd'hui, sans retracer un peu l'histoire. Et puis coopération internationale. Et puis aussi, le stand contient, c'est pour une certaine similitude, parce que Madame vient de dire tout à l'heure par rapport à ces tribaux. Donc on expose aujourd'hui des peintures tribales à Divoisie. Donc ce sont des sites tribaux qui ont, pendant très longtemps, les Adivoisis qu'on appelle en Inde, qui représentent 8% quand même de la population, ont été mises de côté par l'État indien qui aujourd'hui ont quand même une reconnaissance. Hein, il n'y a pas de tous ces suicides de cette théorie qu'on peut trouver en Amérique latine, mais qui aujourd'hui œuvrent aussi avec ces tribus d'Amérique latine pour une reconnaissance légitime de ces peuples. Hein. Donc il y a une certaine similitude aussi de ce travail qu'ils ont fait. Bon, par contre, en Inde, aujourd'hui, certains sont sédentarisés. Il y a d'autres, le plus au nord du Maharashtra, celle que l'on connaît, avec qui on a expédié leur peinture. Mais au-delà, donc, on présente notre association qui est, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, une association qui de sensibilisation, conscientisation auprès des intouchables, de ces marginaux, de ces tribaux. Déjà, faire reconnaître ses droits. Toujours dans la légitimité. Hein. Par exemple, on peut manifester, en Inde on manifeste, on va dans descendre à la rue, on peut revendiquer, il y a quand même un milieu social, associatif qui existe, qui est quand même très fort, mais ne pas s'arrêter là. Quoi. C'est très bien, je manifeste, mais qu'est-ce que je mets à la place? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Et de là, avec des animateurs que nous on soutient de la France, vont accompagner des personnes dans leur démarche. Mais alors, démarche est toujours faite par les personnes elles-mêmes. Quoi.
Alors, reprendre le détail, la nature de l'action un petit peu après. Là, j'aimerais revenir sur la base de votre engagement. Sonia Fraquet, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser et à vous engager par rapport à ces peuples des forêts primaires et par rapport au problème donc, de la déforestation quoi.
Je vais vous dire, la défense des droits de l'homme. J'ai un père qui était résistant, qui a été fusillé par les Allemands. C'est irréparable. Et donc, quand j'ai vu ce film et la façon dont on traite ces personnes qui sont aussi intelligentes et cultivées, leur culture n'est pas la nôtre, j'ai craqué. J'ai fait venir le film pour les élèves et j'ai essayé de faire connaître l'action ici pour eux là-bas. Parce que notre projet a un but encore plus essentiel. J'étais naturaliste de formation et je me rends compte que scientifiquement, une forêt tropicale primaire ne peut pas repousser. Les arbres sont des essences d'ombre. Et quand vous voyez l'Amazonie rasée comme une prairie pour les foins, et que les industriels forestiers vous disent « mais nous gérons cela durablement, nous faisons de la cueillette sélective, oui, à coups de chêne qui abattent les arbres en les cassant, en rasant tout, comment voulez-vous que des graines chargées d'eau avec des vieux semenciers puissent germer et régénérer la forêt ?» Alors selon le professeur Francis Allais, qui a participé notamment au radeau des cimes, eh bien une forêt tropicale primaire pourrait repousser à condition de prendre les graines et de les semer à l'ombre. Alors la forêt primaire, les arbres sont des essences d'ombre et il faut les planter dans une forêt secondaire, mais pendant 100 ans.
Alors vous m'avez dit aussi, avant cet entretien, que vous étiez rendu compte que du bois exotique, et que vos élèves aussi par exemple, s'étaient rendu compte que du bois exotique était utilisé et que ça avait soulevé donc...
La forêt et l'habitat.
Un peu l'engagement,
oui.
Quoi.
Oui, oui. Et donc, ça leur paraissait complètement inadmissible, surtout qu'en cas de fête, en France, nous avons en bois toutes les alternatives aux bois tropicaux, sauf pour le balsam et pour les maquettes seulement. Et que en France, il y a une récession sans précédent de la filière bois devant l'invasion des bois tropicaux. En Alsace, nous avons remis un diplôme d'honneur à Ilkirch Grafenstaden. Et après avoir vu un film sur la déforestation de Bornéo et les orang-outans qui disparaissaient, mais le cinéaste s'excusait, je n'ai pas montré d'homme. Eh bien, on a vu sur scène un monsieur qui s'est approché très tremblant, tout tremblant du micro. Je suis plein d'émotions et de joie. Vous dites d'utiliser nos bois. Or, en Alsace, nous avons des stocks de bois pour plus de 100 ans avec les deux ouragans successifs. Et personne ne nous achète notre bois. Donc, il y a un problème chez nous et il y a un problème là-bas. Parce que les forêts tropicales sont indispensables au maintien de la vie sur la planète.
Jean Poitevin, donc qu'est-ce qui fait le problème des populations auxquelles vous intéressez ?
Alors, ce qui fait le problème, c'est un problème que l'on retrouve aussi chez nous. Hein. C'est une marginalisation, on le voit dans notre crise économique aussi aujourd'hui. On marginalise, bon, c'est le profit qui domine. Quoi. L'Inde, il y a une paupérisation entre un milieu urbain qui se développe à une vitesse grand V. À chaque fois que j'y vais, je ne sais plus où sont les rues. c'est pas un building qui s'élève, c'est une ville entière. Et à côté, on a quand même une population rurale. qui, bon, aujourd'hui, il y a quand même une certaine émancipation. Mais il y a encore une grande part de marginalisation et surtout on profite de l'ignorance, qu'il faut des poids politiques, des poids religieux qui sont encore là. La culture indienne, le système des castes aussi favorise un peu ce système.
En Inde, concrètement, le système des castes persiste.
Perdure et se je vois mon frère juste avant, parce que c'était en 2004, il a beaucoup travaillé avec Christophe Jaffrelot.
Donc c'est Guy Poitvin.
Qu'on le connaît, hein. Guy Poitvin qui était mon frère.
D'où le nom de l'association.
Dans l'association, en mémoire à lui. Quoi. Et il a beaucoup travaillé avec Christophe Jaffrelot autre, et Christophe le dit aussi très bien que les castes aujourd'hui sont encore plus fortes qu'avant. C'est une forme de corporatisme, et quand on vote pour la caste, on se vote pour la caste, et non pas pour la question de nation. En Inde, n'est encore pas acquise dans l'esprit des gens, quoi. Mais bon, c'est propre à l'Inde. L'Inde, comme d'autres pays, a une culture quand même très très riche, philosophie derrière. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ce qui nous attire aussi ici, c'est que j'emmène chaque année ou tous les 18 mois des groupes de Français. Qui vont dans l'Inde profonde, l'Inde rurale, bon, on visite aussi un petit peu l'Inde, également découvrir en contact avec ses familles, enfin ses groupes, le voyage est organisé par nos animateurs, et aujourd'hui on retrouve le problème des lobbies, le problème des OGM, le problème. Et ce qui m'étonne, c'est que des gens qui savent à peine lire et écrire, ont conscience de ce problème et se prennent en charge. Et là, je crois que à certains moments, on peut prendre des leçons. Hein. Et aujourd'hui, on parle de l'eau chez nous. L'eau, chez eux, c'est un problème crucial. Dans certaines régions aujourd'hui, que des chantiers qui ont été faits, soutenus aussi un peu par l'État indien, mais devant, je te dis, cette culture du fatalisme auquel le gouvernement ou des plans peuvent être pondus verticalement, s'il n'y a pas une participation de la population en général, ça échoue. Hein. Mais nos animateurs ont fait prendre conscience à cette population, travailler. Il y a le problème de l'eau aujourd'hui sur des collines, problème de saison sèche, saison des pluies, les pluies sont très violentes et on connaît les problèmes d'érosion. On recrée des fossés très régulièrement pour capter l'eau, lui prenait le temps de pénétrer en terre, de faire de la rétention. Et aujourd'hui, d'une culture, on en fait deux. Et dans un état du Nord très très sec aussi, on a réhabilité sur les techniques des anciens, qui ont été plus ou moins détruits par les Anglais, et puis au nom des productivistes, on refait des bassins de rétention en eau, et d'une culture, on passe à trois. Donc on peut vendre, se situer et s'autosuffire. Quoi. Et ça, avec leurs propres mains. Quoi.
D'accord.
Les choses qui a choqué les Français, c'est que quand on voit une pelleteuse à côté, pourquoi tu ne fais pas les fossés avec ta pelleteuse? Mais 1,3 milliard, ça ferait combien de milliers de chômeurs que si on utilisait la pelleteuse? Donc après, il y a des rémunérations de la part de l'État. D'accord. Mais c'est aussi de bien comprendre que les problèmes chez eux sont les nôtres, et qu'on échange sur les mêmes thématiques.
Alors les problèmes chez eux sont les nôtres. Sonia Fraquet, donc peuple des forêts primaires, est-ce que nous avons, nous, les moyens d'agir en tant que simples citoyens pour protéger justement ces forêts primaires et les populations de ces forêts?
Citoyens et consommateurs. En tant que consommateurs, nous pouvons refuser. Nous avons un pouvoir énorme entre les mains. Et les consommateurs avertis le font. Au début, il y avait des réticences. Une dame, je n'oserais jamais demander à un vendeur quoi que ce soit. Je dis, madame, quand vous achetez de la viande, oh ben bien sûr, j'ai pas mal. Je dis, écoutez, il y a du sang humain derrière ces bois que vous achetez. Ah ben alors là, je le ferai. Voilà. Et donc, pouvoir des consommateurs, donc de l'information, et pouvoir citoyen, faire en sorte que les maires, les présidents de communautés de communes, le président du conseil régional de Bretagne fasse voter cette motion communauté de communes sans bois tropicaux. Et en Bretagne, il y a quelque chose de formidable qui s'est créé autour de maires vraiment charismatiques, autour de la communauté de communes du Val d'Ille, un peu au nord-nord-est de Rennes, autour de Pontivy, Silfiac en particulier. Ils ont créé l'association Bruded, Bretagne rurale, urbaine et développement durable. Et notre motion passe très bien dans les engagements des maires pour renoncer à ces bois qui détruisent l'habitat et des écosystèmes dont le fonctionnement est indispensable à la survie sur la planète. Voilà.
Est-ce qu'on se rend compte facilement que ces bois sont des bois forcément exotiques, ou est-ce qu'il peut y avoir des pièges des fois?
Alors, nous avons une petite fiche que nous donnons aux consommateurs. Pour les bois tropicaux, c'est très simple. Il n'y a pas de saison. Ils ont une croissance continue. et ils ont des petites incisions que l'on appelle des gerçures. Les différences de couleurs peuvent être dues à une alternance de saison des pluies, de saison sèche, tandis que chez nous, nous avons un printemps et un été. Au printemps, l'arbre, qui est une machine hydraulique remarquable qui évapore beaucoup d'eau, eh bien, elle fabrique des gros vaisseaux du bois, visibles à l'œil nu quand le bois se décompose un peu à la surface. Donc vous avez du bois de printemps. En été, il y a moins d'eau. Les tubes, il faut faire des lames minces, avoir au microscope. Et vous avez le bois d'été. Donc à partir du cœur de l'arbre jusqu'à l'écorce, vous connaissez l'arbre de l'arbre, l'âge de l'arbre. Et quand vous voyez des cernes du bois avec des nœuds, c'est un bois tempéré ou boréal.
D'accord.
Mais boréal, on ne peut pas savoir s'il vient d'une forêt boréale de Finlande ou du Canada, qui fait des coupes rases pour de la pâte à papier depuis l'entre-deux-guerres mondiales.
Est-ce qu'il y a aussi, vous parliez de pain de monoculture, de quoi s'agit-il là ?
C'est la catastrophe. On rase des forêts primaires, tropicales, pour planter des palmiers à huile jusqu'à l'horizon, comme au bord de la mer.
C'est la REC, c'est ça, non ? C'est le...
Oui. On plante des EVA, des acacias et des eucalyptus à croissance rapide. Mais en forêt tropicale, l'humus a une très très faible épaisseur. Les micro-organismes décomposeurs de la matière organique morte fonctionnent d'autant mieux pour digérer cette matière organique qu'il pleut et qu'il fait chaud, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement décomposée avant d'arriver au sol. Vous mettez les bulldozers là-dessus, il n'y a plus d'humus, et l'histoire de replanter des arbres est fallacieuse, parce que sous ce maigre humus, il n'y a que de l'argile, ou que du sable, ou voire même des galets au Guatemala. Mmh. Donc ça ne repoussera jamais, on a des déserts rouges au Brésil, en Afrique, etc. Alors pour faire pousser des monocultures, il faut des apports d'engrais. Et quand un ravageur, on lui offre l'eucalyptus qu'il préfère, il se reproduit. Donc, il faut des pesticides. Alors, actuellement, IKEA, qui ne vend plus de meubles en bois tropicaux, vend des bois en acacia, en EVA, en eucalyptus. Et toutes les industries papetières tempérées se réfugient sous les tropiques pour profiter de ces cultures monocultures que les Indiens appellent des déserts verts.
Donc ici, vigilance sur les produits que nous achetons.
Ah oui.
N'hésitons pas à poser des questions en termes de traçabilité sur ces produits. Et votre message, c'est rejetons la consommation de tous ces bois exotiques.
De tous ces produits et de toutes ces pâtisseries à l'huile de palme.
Jean Poitvin, donc, pour ce qui est de l'association, donc, vous évoquez aussi la notion de conscientisation.
Oui, conscientisation auprès de ces peuples-là, mais prise de conscience...
Alors là, on est reparti en Inde.
Hein. Alors, reparti en Inde, mais on pourrait dire prise de conscience aussi chez nous par rapport à tous ces problèmes qui sont évoqués, que madame aussi évoquait d'ailleurs, le système de notre principe de consommation, quoi. Conscience de nos risques et quand dans les équipes, ça c'est l'équipe indienne, des discussions qu'on a avec dans les villages, on retrouve les mêmes questions par rapport au risque des OGM, au suicide de paysans en Inde par rapport suite à l'endettement par aux OGM. Il n'y a pas que l'OGM, il y a d'autres facteurs derrière qui provoquent l'endettement tels que la dot, par exemple. La dot, pardon, qui est très violente en Inde aujourd'hui, dans les milieux urbains aujourd'hui. Hein. Donc toutes ces questions, ça les pose, et au cours des échanges que l'on peut avoir avec les Français qui viennent avec moi, donc ils sont toujours déjà eu un engagement associatif souvent, très fort, qui ont déjà des expériences derrière eux, c'est d'échanger avec eux sur ces problèmes. Et on s'aperçoit qu'enfin, comme je disais tout à l'heure, leurs problèmes sont un peu les nôtres par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport à au risque maladies ou autres de pesticides, de fongicides, et comment est-ce qu'on peut produire autrement. Eux ont déjà des expériences sur la matière, ils ont quand même quelques très bons techniciens qui défendent ça. Mais de savoir qu'il y en a d'autres comme chez nous qui sont dans une même démarche, qui se posent les mêmes questions, donc il y a cette internationalisation, si on veut, de ces problèmes. Donc c'est ensemble, ce n'est pas uniquement ici. Mais je crois que si on départ d'un peu les frontières et qu'on se remet ensemble pour lutter contre tous ces problèmes, on est quand même beaucoup plus fort. Quoi. Et en même temps, ça les encourage aussi à s'engager. Quoi. C'est une force une présence psychologique qui est très forte pour eux, ils savent très bien nous le dire.
Nous avons déjà écrit en Inde pour protester contre l'implantation d'une usine Citroën ou Michelin, je ne me rappelle plus laquelle, dans le sud de l'Inde, sur un territoire forestier d'intouchable.
Il y a eu le problème de Tata qui a été obligé de déloger. Hein. D'ailleurs, dans la région du Nord, où les paysans locaux l'ont quand même délogé. Donc c'est un gros problème. Mais bon, le rapport de force, pour l'instant... quand même très faible par rapport à tout.
On le voit bien à travers vos échanges. Oui, madame.
Il y a encore autre chose, c'est que j'ai parlé des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Oui, tout à fait.
Mais l'ONU, le 13 septembre 2007, a voté la charte des peuples autochtones. Mmh. Ils ont le droit à tous les droits qu'il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, plus ceux dans la charte pour les peuples autochtones. Des législations qui incorporent cette charte des peuples autochtones, comme la Malaisie, ne l'appliquent pas du tout. Elle est inconnue, méprisée. Le gouvernement français, nous avons fait des pétitions, nous avons écrit au ministre des Affaires étrangères, au président de la République. Quand on a des réponses par politesse, et nous avons bien reçu votre courrier, il en a été pris connaissance, mes hommages madame, ou alors... On récapitule toutes les lois qui ont été votées, même une circulaire abominable de Monsieur Raffarin qui dit qu'on n'empêchera pas un marché du bois, même s'il y a des autochtones. Il ne faut pas te dire compte des autochtones qu'il y a dans la forêt. Alors on nous récapitule tout cela, mais ça n'est pas appliqué. Et actuellement, pour le commerce illégal du bois, les bois hors limite de concession, les bois en sous-diamètre qui ne se reproduisent, les arbres qui ne peuvent pas se reproduire, etc., les coupes qui ne respectent pas les législations forestières des pays, l'Europe a voté une loi avec un nouveau logo certifiant que c'est du bois légal, FLECT, F-L-E-G-T. Eh bien, des associations indépendantes qui contrôlent en Afrique voient encore que c'est toujours la magouille pour du fric et qu'aucune certification n'est fiable. Les certifications sont à but uniquement commercial et c'est un viol de la conscience des consommateurs. Donc nous protestons contre tout cela, mais le gouvernement dit aux entreprises « Contentez-vous de votre verdissement actuel ». Vous travaillez avec WWF, qui travaille lui-même avec les industries forestières.
Voilà, donc on a bien compris la problématique. Ouais. On pourrait bien longuement encore évoquer tous ces points-là. Je voudrais juste qu'on puisse conclure en essayant d'expliquer comment le citoyen français ou le Mayennais de notre secteur ici, ou le Sartois parmi nos auditeurs, peut éventuellement rejoindre votre combat. Comment faut-il procéder Que faut-il faire, Sonia Fraquet?
Il peut tout simplement prendre nos papiers. Il peut adhérer. Nous vivons des adhésions 10 euros par an. Et les communes qui ont voté, alors ça a été un vœu de l'Assemblée Générale, ça ne m'intéressait pas, mais on demande aux communes qui ont voté une motion, communes sans bois tropicaux, de nous verser une subvention. Alors ça va de 10 euros à 200 euros, c'est symbolique quelquefois. Mais quand on a durable, on peut aider les Kogi en Colombie à racheter leurs terres avec Éric Julien, ou les Penans qui sont maintenant dans des baraques qu'ils savent construire. Mais ils n'ont plus les palmes pour couvrir leur toit, donc on les aide à acheter des tôles de zinc. Alors ces gens-là nous aident, mais s'ils appliquent simplement ce qu'on leur dit, c'est très bien. Et quand on nous dit merci de faire ce que vous faites pour eux et pour les forêts dont nous dépendons, ça nous fait chaud au cœur.
Alors sinon, on retrouve les informations sur un site qui n'est pas Peuple des forêts primaires, mais FDFP.
Forêt des forêts primaires.
Voilà, .free.fr. Oui. Hein, on peut retrouver donc d'autres informations pour mieux comprendre votre combat et éventuellement donc le rejoindre ou le soutenir.
Majoritairement, nous sommes soutenus.
C'est bien heureux. Jean Poitevin, vous-même, donc vous êtes plutôt mayennais, donc plutôt local dans cet échange, pour vous rejoindre, évoquer avec vous ces questions.
Comment sensibiliser l'opinion mayennais, c'est-à-dire que aussi réflexion que en période de crise aussi aujourd'hui, hein, parce que bon, chacun pense un petit peu à soi, ce qui est logique. L'Inde, c'est un pays quand même relativement loin, auquel on avait, par rapport à nos comptoirs, autrefois, on avait quand même moins d'attaches. Si on parle de l'Afrique, les gens sont peut-être un peu plus sensibles de par ce passé colonial qu'il est, puis en plus la langue française. Là-bas, c'est l'anglais, c'est même pas l'anglais quand on sort, c'est la langue locale. Nous, c'est le marathi. Hein. Mais l'Inde aujourd'hui se développe. Bon, c'est plus par des témoignages, puisque nous, on a vécu dans notre histoire. À travers notre histoire, on a créé, bon, comme on le voit aujourd'hui, les stands qui sont là, ce CCCVM, tout ça, cette agriculture bio. Il y a tous les parcours que nous, on a fait chez nous. De dire, ben voilà, notre expérience, elle est là, quoi. Et puis, aujourd'hui, on peut dire que c'est cette mutation qu'il y a eu, les gens peuvent en vivre sainement et peuvent aussi y gagner. En vivre enfin, en termes de salaire, parce qu'il faut le justifier aussi, il faut en vivre au bout, quoi. C'est pas une simple philosophie, quoi. Mais c'est à travers ces échanges que l'on peut apporter avec eux, quoi. Dire qu'on va aider financièrement, que l'association soit soutenue pour soutenir ses animateurs, bon, je crois que dans le temps, c'est à eux de se prendre en charge, comme le dit Gandhi, hein. C'est le problème, il va être résolu. Ouais. La solution va être là où est le problème. On trouvera, notre culture est différente, on ne trouvera pas la solution, nous. Mais c'est un échange d'expériences. Et puis, ensemble...
Sonia Fraquet a envie de rebondir sur vos propos.
Oui, je voudrais terminer, comme vous, sur de l'espoir. C'est que nous sommes aussi invités dans des collèges, dans des lycées, lycées agricoles, avec des futurs forestiers ou futurs... designer pour les jardins, je ne trouve pas le mot.
Paysagiste.
C'est ça, pour qu'ils ne mettent pas des allées en teck ou des bois comme cela. Et puis, dans un CFA, devant un professeur et des élèves adultes en menuiserie, en ébénisterie et en charpenterie, le professeur d'ébénisterie était blême. Comment je vais faire mes plaquages ? Là, on a découvert qu'il y avait 53 couleurs différentes pour les bois locaux. Et on connaît un professeur d'ébénisterie à Auray qui n'utilise que du bois local, alors que dans le même atelier à côté, ses élèves travaillent du bois tropical. Et je vous jure que les élèves... Il y a beaucoup de critiques pour les lycéens, parce que la télévision ne nous montre que les malheureux lycéens des quartiers qui ont toutes les raisons possibles pour se révolter. Eh bien, les lycéens et les collégiens sont partie prenante. Et c'est l'espoir de l'avenir, cela.
Très bien. On va en rester là
avec
Jean Poitevin, président de Guy Poitevin Anne-Mayenne. Oui. Il suffit de faire sur Google.
Mais il suffit Anne-Mayenne sur Google. Anne-Mayenne. Après, il y a différents liens qui vous amènent.
Et on arrive à vos sites, aux différentes propositions peuvent être faites.
Oui, il y avait un centre de recherche, d'ailleurs, qui était mis en place par mon frère, qui travaille toujours en lien avec le CNRS. Et puis... en France, et puis en même temps, tout ce travail d'animation et de formation d'animateurs au niveau local et conscientisation des plus démunis. Quoi.
Voilà, pour Jean
Poitevin. Avec des engagements quand même très concrets sur le terrain tout en termes de santé et autres. Mais on voit très bien que quand les gens veulent s'engager sur place, bon, ça apporte beaucoup plus que d'envoyer du fric. Directement.
Le message est entendu. Ouais. Et puis, donc, remercier également à Sonia Fraquet, qui est présidente fondatrice de Peuple des forêts primaires, que vous pouvez retrouver sur le site www.pdfp.free.fr pour en savoir plus sur cette action et tous ceux qui se sont battus depuis déjà longtemps.
Je rends hommage à Bruno Manzer, perdu la vie, qui prônait la non-violence comme Gandhi. Sa tête avait été mise à prix 200 000 francs suisses avant 1990. Et ils l'ont tué en 2000. Il sacrifiait sa vie volontairement pour sauver les penants.
Voilà, un combat, on le voit bien, qui n'est pas si simple parce que les enjeux sont énormes derrière ces enjeux.
C'est monumental.
Voilà, merci à vous Sonia Fraquet, merci à Jean Poitevin ce plateau qui nous a permis d'aborder un peu les enjeux avec une vision internationale sur cette planète en fait de Saint-Pierre-Denis.
Et merci de nous permettre de transmettre ces messages.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.